Bonjour Inès Benaroya.
Bonjour.
Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre second, non, pour votre deuxième
Oui,
livre,
deuxième.
Hein, on en espère d'autres encore. On s'était vu pour la remise, premier roman qu'on avait beaucoup aimé ici. Vous publiez Quelqu'un en vue, toujours chez Flammarion. Quelle est, c'était l'expression d'Umberto Eco qui parlait toujours pour ses romans d'une image séminale qui avait donc généré, ensemencé son récit, son roman. Est-ce que pour Quelqu'un en vue, vous aviez une image séminale?
Je pense que l'image princeps, si je puis dire, c'est la vue que j'avais de chez moi, dans mon ancienne maison, sur un petit immeuble ouvrier tout modeste. Je me suis étonnée longtemps dans cette banlieue parisienne où je vivais à l'époque, de la cohabitation entre des gens si différents. Moi, famille bourgeoise, et puis en face, cet immeuble qui avait l'air de rien. Et peut-être que c'est sur cette base-là que j'ai brodé le démarrage de l'histoire. Parce qu'en réalité, je pense que l'histoire s'en affranchit largement, mais qu'elle a servi, que cette image a peut-être servi de base à planter un décor.
Donc Valérie, Valériane, plutôt, c'est
oui.
Vous ?
Non.
Vous dansiez nu aussi devant vos fenêtres pour l'inconnu qui vous regardait en face, qui était en train de vous mater.
Valériane, c'est pas moi. En revanche, je pense que Valériane, c'est une sorte d'archétype de femmes qui me sont assez familières, dont peut-être par certains côtés je fais partie, de femmes bourgeoises, dans une vie toute tracée, un peu par d'autres. En réalité, des femmes qui s'inscrivent dans le désir de leur entourage, de leur famille, des bienséances sociales, et puis qui peut-être un jour se réveillent en se disant « Mais au fond, est-ce que c'est bien mon désir ? Est-ce que je suis vraiment en train de vivre la vie qui me convient ?» Que j'aurais choisi si j'avais vraiment pu me poser la question à 20 ans, de quoi ai-je envie ? Alors, c'est pas moi directement, même pas du tout, mais en revanche, elle m'est assez familière.
Alors, je m'étonne un peu parce que depuis le début, vous n'avez pas parlé ce qui pour moi me semblait être le ressort principal du livre. Bon, vous avez évoqué cette cohabitation, ces immeubles bourgeois en face d'immeubles ouvriers, mais il y a le thème donc du voyeurisme au centre du livre. Le voisin, la voisine, chacun dans leur immeuble. Vont regarder ce qui se passe chez l'autre. Cette idée-là est venue par la suite ?
Non, en réalité, je pense qu'elle était là en premier lieu, puisqu'effectivement, j'avais cette idée de voisins face à face très différents l'un de l'autre. Et je me suis amusée avec ce fantasme que je crois beaucoup d'entre nous avons de qu'est-ce qui se passe chez les voisins. Et de regarder plus ou moins ouvertement dans la fenêtre d'en face. Et c'est vrai que c'était pour le coup un ressort très amusant du regardant, du regardé, qui regarde qui, est-ce que ce que l'on voit est vraiment ce qu'il y a à voir.
Le jeu des apparences,
etc. Et cette idée du regard qui et des images qui sont peut-être menteuses, en fait, m'ont conduite, je pense, vers une autre histoire, qui est cette histoire, justement, de l'emprisonnement dans les images et dans le regard des autres, et qui, à mon sens, maintenant que le livre est écrit, est vraiment le fondement de l'histoire. Et pour moi, finalement, l'histoire du face-à-face et du voyeurisme, c'est presque plus un prétexte pour écrire l'histoire que j'avais envie d'écrire.
Mais tout de même, le voyeurisme, on peut le prendre comme une espèce de métaphore du romancier. Enfin, tout écrivain, finalement, est un voyeur à sa manière, non ?
Je ne me vois pas comme ça. Je me vois plus comme un démiurge, pour le dire avec simplicité. Je n'ai pas le sentiment de regarder les autres, bien que, bien sûr, je m'en inspire. J'ai le sentiment que mon travail ou ma réflexion est plus tournée vers l'imaginaire et la création. De laisser partir l'imaginaire que d'aller choper et mater, pour reprendre ce verbe, chez les autres.
Mais l'un peut se nourrir de l'autre.
Et l'un se nourrit absolument de l'autre.
Alors Vincent, ce personnage de Vincent, d'où vient-il ? Parce qu'a priori, on peut penser qu'il est très loin de vous.
Il est très loin de moi. Et là, pour le coup, il est purement imaginaire. C'est-à-dire qu'il ne s'inspire de personne de mon entourage ou même que j'aurais pu croiser. C'est vraiment une construction de A à Z et ça faisait partie un peu du challenge de ce deuxième roman, de parvenir à imaginer un personnage totalement fictif. Alors j'avais quelques bribes au démarrage, je voulais qui sorte de prison, puisque je voulais que cette thématique de l'emprisonnement soit incarnée par lui de façon au sens propre. Mais au-delà de ça, j'avais rien. Alors j'ai été inspirée par un horloger qui est dans un petit village à côté de ma maison de campagne, que je suis allée voir par deux fois dans son atelier. Et en sortant de son atelier, complètement sous le charme de ce vieux métier qui ne sert plus à rien, je me suis dit, voilà, Vincent sera horloger. Mais ça s'est construit vraiment au fur et à mesure.
Oui, mais ça, alors justement, c'est une question que je me posais, que j'allais vous poser. Pourquoi ce métier d'horloger? Et donc là, ben, on voit un peu les coulisses de l'écriture. C'est tout simplement cette rencontre avec un horloger alors, près de votre maison de campagne.
C'est absolument cette rencontre, mais je pense que cette rencontre a fait écho à quelque chose en moi, d'autre. Et je pense que ce qui m'a séduit dans cette rencontre, c'est justement ce métier qui ne sert plus à rien. Puisqu'en fait, réparer des montres mécaniques, ça n'a plus d'utilité directe. Cette industrie qui a périclité dans les années 70, avec ce conflit de l'IP que je portais en moi, petite fille qui avait laissé des traces. Et j'ai, je pense, aimé donner à Vincent un métier qui ne sert plus à rien pour incarner cette absence d'utilité sociale que Vincent ressent, qui voilà, le fait être dans ce questionnement de à quoi je sers, qui je suis, quels sont mes propres désirs.
Tout le monde est en prison ou sort de prison dans ce livre. Vous parliez de la prison au sens propre de Vincent, mais finalement Valériane est dans sa propre cellule.
Oui. C'est ça,
dans son propre enfermement, disons.
Dans sa prison dorée. C'est bien cette construction en miroir que j'ai souhaité faire d'un homme qui sort de prison, donc vraiment au sens propre, et puis d'une femme qui prend conscience qu'elle est emprisonnée dans son existence, dans les carcans sociaux, dans le regard des autres, et qui va essayer de s'en affranchir, de s'évader. Et voilà, donc oui, tout le monde est un peu en prison.
Et avec ce défi qui est de marcher vers la liberté, voilà, ça n'est jamais aussi facile qu'on pourrait le penser, à commencer pour Vincent. On se dit, ben voilà, sortir de prison, enfin, une vie nouvelle s'ouvre, mais c'est surtout un vide immense qu'il a devant lui. Mmh. Et puis, même chose pour Valériane, bien forcément tourner le dos à cette vie malgré tout confortable mais qui ne la satisfait pas. Là aussi, autre challenge.
Je pense que c'est vraiment ça le sujet qui m'intéresse ou qui m'a intéressée. La liberté a un prix, sans doute, à payer. Donc tout est une question ensuite de choix personnel. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour se sentir libre? Chacun doit faire son chemin et effectivement cette marche vers l'autodétermination et la liberté, c'est le sujet.
Alors le docteur Lehu poursuit son questionnement. Quel prix vous avez dû payer vous un jour pour votre propre liberté?
Est-ce que la patiente Benaroya peut mettre un joker?
D'accord, ce sera le seul. Hein.
Ah d'accord.
Donc il est brûlé.
Ça y est, je l'ai...
Plus sérieusement, ce que j'ai trouvé vraiment très très fort dans ce livre, dans ce texte et la manière dont vous l'avez construit, ce sont tous les non-dits, tout ce qu'il a d'implicite. On sait, on comprend que Vincent, bon, il est allé en prison, il a été forcément coupable de quelque chose. Mais on ne saura jamais de quoi exactement, même si vous nous laissez entendre. Voilà. Et même chose pour Valériane, on sait qu'il y a des fantômes qui ont marqué son enfance. Là également, vous lancez quelques pistes, mais il y a beaucoup de silence. Je me disais que ce qui fait parfois les bons livres, ce sont justement leur silence.
Moi-même, je ne sais pas pourquoi Vincent est allé en prison. Et moi-même, je ne sais pas véritablement ce qui s'est passé dans l'enfance de Valériane. Et dans le travail d'écriture, je me ménage ces zones d'ombre. J'ai pas envie d'y aller pour peut-être rester au plus près de ce que le lecteur pourra expérimenter par la suite. Donc je n'en ai pas la moindre idée. Mais c'est volontaire. C'est comme si sur certains sujets, certaines facettes de mes personnages, j'avais vraiment une lumière extrêmement crue pour être au plus profond de leur intimité. Mais sur les autres, je fais exprès de les laisser dans l'ombre pour garder cette part de mystère que j'ai envie de transmettre et puis voilà, qui correspond finalement à la réalité de la vie. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un intégralement.
Est-ce que même on se connaît soi-même?
Et voilà, on n'est pas le maître dans sa propre maison, comme dirait l'autre.
Et bon, vraiment, ce livre est très, très, très riche. C'est bourré d'idées. Il y a celle des souterrains. par exemple, qui circule justement, il y a tout un réseau sous ces différents immeubles. Mmh. Vincent va s'y plonger. Alors vous allez me dire si c'est voulu ou pas, mais j'y voyais aussi une métaphore finalement des profondeurs de nos âmes.
Oui, oui, tout à fait. Ça symbolise. Alors, ce sont les dessous de la ville, et donc ça symbolise effectivement les coulisses de nos âmes ou de nos désirs, la partie un peu obscure de nous dans laquelle on peut avoir envie ou être amené à plonger. De manière bien plus prosaïque, c'était aussi une façon de faire peur. Et j'avais envie de faire un peu peur au lecteur. Ça fait peur. Enfin, l'idée d'un souterrain, l'idée de personnages comme Vincent qui errent la nuit sous nos maisons, ça fait un peu peur. J'avais ce ressort-là, j'avais envie de ce ressort-là, et notamment dans la première partie. Idéalement, j'avais envie que le lecteur arrive à la fin de la première partie en ayant vraiment la trouille. Et puis que finalement, on s'oriente sur complètement autre chose.
Alors vous me tendez la perche pour la question suivante. Vous venez d'évoquer la première partie. Il y a aussi une construction assez sophistiquée. On a d'abord la voix de Vincent dans une première partie. C'est lui qui nous parle. On a son point de vue, donc de son petit immeuble à lui. Dans la deuxième partie, c'est la voix de Valériane, avec son point de vue depuis son bel immeuble bourgeois. Et dans la troisième partie, bon, on ne va pas insister, mais les deux voix vont s'entremêler. C'est une construction qui était là d'emblée.
Oui. Ça, c'est vraiment à la base de l'écriture. J'avais envie d'une contrainte formelle, comme une sorte de challenge d'écriture. Et j'ai vraiment travaillé longuement sur la construction formelle de ces deux parties, dans le souci qu'elles soient vraiment en symétrie, de ne pas faire d'erreurs de chronologie, même en termes de longueur. Je voulais qu'elles soient à peu près de la même longueur. J'avais vraiment envie de ce travail formel, de ce montage, de cette structure visible. Oui, ça m'a beaucoup plus intéressée dans le travail d'écriture.
Est-ce que vous aviez des références? Bon, parce qu'évidemment, c'était un peu bateau, mais dès qu'il est question comme ça d'une fenêtre et quelqu'un qui regarde l'immeuble d'en face, on pense à Hitchcock, Fenêtre sur cour. Est-ce que vous aviez, en dehors de tout ce que vous venez de nous dire sur l'élaboration de ce livre, vous aviez des références, justement, ou cinématographiques ou littéraires pour nourrir ce texte?
En l'occurrence, j'en ai eu une pendant l'écriture, offerte par Jean Genet, qui, outre sa poésie, a aussi s'est beaucoup intéressé au cinéma et a fait un film de moins d'une heure qui s'appelle « Chant d'amour ». Qui n'est pas un film très connu, et qui met un film muet, c'est un film muet, qui met en scène un surveillant qui observe un détenu par l'œilleton dans sa cellule. Et donc, j'ai été assez marquée par ces images. Ce sont des images avec une tension érotique assez palpable. Et voilà, j'ai regardé ce film plusieurs fois et j'ai souvent. J'ai laissé les mots venir comme si je décrivais des scènes prises dans ce film complètement atypique, un drôle d'objet cinématographique qu'on peut voir sur Internet facilement.
Deuxième livre, on le disait d'emblée. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait des progrès?
Oui.
Oui, il faut oser le dire. C'est bien d'avoir d'être lucide, de pouvoir analyser son propre travail.
Alors, j'ai déjà explorer une dimension de l'écriture que je n'avais pas du tout travaillé la première fois, qui est celle du montage, dont on a déjà parlé. Puisque pour le premier roman, j'ai écrit comme c'est venu, n'importe comment, puis après j'ai mis bout à bout et j'ai comblé les trous. Là, j'ai vraiment travaillé la structure. Donc, de ce point de vue-là, je pense que j'ai appris. Et puis, sur l'écriture, j'ai écrit plus facilement. Et donc, je pense que quand le premier jet est plus aisé,